Popol, le podcast politique qui donne la parole aux femmes.
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize.
Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce 16e épisode de la deuxième saison de Popol. Et avant de commencer ce nouvel épisode, je voulais juste vous rappeler qu'il y a une campagne de crowdfunding pour permettre à Popol de se décliner aussi en newsletter. Donc si jamais vous voulez soutenir le projet, je vous invite à aller sur ma page Twitter, mon profil Instagram, etc., etc., et de cliquer sur les liens qui vont bien pour aller jusqu'à la page Ulule pour soutenir Popol. J'en profite aussi pour vous dire que si vous aimez ce projet, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur toutes les applis, tout ça, des commentaires, des petits cœurs d'amour et tout, et tout. Merci beaucoup et c'est parti. Donc, 16e épisode. Pour ce 16e épisode de la deuxième saison, j'ai le plaisir de recevoir Ayodele et Kwesan. Bonjour Ayodele.
Bonjour Léa.
Comment vas-tu?
Je vais bien, merci. Et toi?
Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît?
Alors du coup, Ayodele Cresson, je suis une athlète olympique sur 100 mètres et relais 4 fois 100 mètres. Je suis maire adjointe dans le 18e et je suis candidate sur la 3e circonscription de Paris en tant que candidature citoyenne de gauche.
Voilà. Et j'ai écorché ton nom.
C'est pas grave.
Et Cresson, pardon. En plus, on a fait la répète avant, je suis nulle. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Un plaisir de te recevoir. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous Louise Brody. Bonjour Louise.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Super.
Est-ce que tu pourrais nous parler de toi aussi, s'il te plaît?
Je m'appelle Louise Brody, j'ai 27 ans, je suis syndicaliste, je suis juriste à l'inspection du travail et je suis aussi candidate de cette nouvelle Union populaire écologique et sociale, NUPES, je ne sais pas comment il faut prononcer ça. Mais en tout cas, je suis la seule candidate de gauche et des écologistes dans la 3e circonscription des Yvelines. C'est une circo plutôt ancrée à droite, mais où on ne désespère pas de créer la surprise et de faire basculer la circo à gauche pour la première fois de son histoire.
Eh bien, on te souhaite bonne chance. Et enfin, une troisième candidate aux législatives aujourd'hui avec nous, Mayalène Mallet. Bonjour Mayalène.
Bonjour Léa.
Comment vas-tu?
Super bien.
Alors, raconte-nous un peu ton parcours, enfin pas ton parcours, mais en tout cas ce que tu fais actuellement et où tu es candidate et pour qui, s'il te plaît.
Du coup, je suis Mayalène Mallet, j'ai 24 ans et je suis candidate pour le parti Allons Enfants, qui est un parti jeune qui avait renouvelé un peu les visages en politique. Et donc, je suis candidate à Paris dans le 15e arrondissement, la 13e circo.
Bah, génial, merci beaucoup. Bon courage à toutes les trois aussi pour vos campagnes respectives. Aujourd'hui, on ne va pas parler des législatives, on peut en parler un peu à un moment donné, mais on va aussi et surtout parler du nouveau gouvernement et de sa nouvelle chef, Elisabeth Borne. Lundi dernier, le président de la République a enfin annoncé qui serait celle qui pilotera ce gouvernement provisoire, car comme vous le savez, ce gouvernement est en place jusqu'à les élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin. Pour chefer ce gouvernement provisoire, Emmanuel Macron a choisi de nommer Elisabeth Borne. Comment vous avez accueilli cette nouvelle, Louise? Qu'est-ce que tu penses de cette nomination?
J'en attendais rien, mais j'ai entendu dire que ce serait une femme de gauche. Alors, j'étais un peu surprise, je ne savais pas. Pourtant, Elisabeth Borne, elle est là depuis 5 ans. Elle a été ministre des Transports, elle a détruit le service ferroviaire. C'est elle qui a porté la réforme de la SNCF, qui a ouvert le rail à la concurrence. Je ne savais pas que ça, c'était une réforme de gauche. Elle a été ministre de l'écologie, elle a repoussé de 2 ans la sortie du glyphosate, elle a supprimé 2000 emplois au ministère de la Transition écologique. Elle a été ministre du Travail ensuite, elle a porté l'assurance chômage sur le dos des chômeurs, elle a fait des économies sur le dos de ces chômeurs-là, elle a refusé d'étendre le RSA aux moins de 25 ans, enfin bref, j'ai découvert que c'était ça, être de gauche, je suis surprise.
Alors, outre l'ironie, effectivement, de cette nomination, est-ce qu'on est contente que ce soit une femme ou pas, Ayodele? Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ben, j'en pense que c'est de la com, quoi. Enfin, voilà, je pense que ils cherchaient une femme vraiment pour être dans la symbolique après Edith Cresson. Et malheureusement, nous, ce qu'on veut, c'est des femmes en politique qui sont là de par leur compétence, mais pas que parce que ce sont des femmes. Et là, on a un peu l'impression que ils cherchaient une femme et il en avait une et que... Bah, en fait, elle n'est pas du tout de gauche, en tout cas, de par tout ce qui a été cité par Louise, mais qu'on est vraiment sur de l'image. Et malheureusement, pour susciter une envie chez des femmes plus jeunes et autres, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut aborder les choses. Je pense qu'il faut encourager celles qui sont, qui sont présentes, qui s'investissent, qui s'engagent. Et pas de dire on met une femme première ministre parce qu'on cherche une femme. C'est assez réducteur d'ailleurs parce qu'il a mis du temps et qu'on avait l'impression que c'était comme si on n'avait personne qui pouvait être à la hauteur de ce poste. C'est pour moi un très mauvais message. Alors après, sur le fait qu'elle soit de gauche, vu toutes les réformes qu'elle a apportées, je pense qu'on est peut-être aligné sur ce sujet-là pour dire que ce n'est pas le cas. Mais après, ça pose un peu la question de qu'est-ce qu'on entend par être de gauche. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on peut être de gauche et porter effectivement ces réformes de la SNCF et toutes les autres réformes qu'elle a pu porter? Mais moi, je pense qu'il faut surtout se concentrer sur, sur ce qu'elle est politiquement et pas tant le fait que ce soit une femme. En tout cas, donc moi, pareil, je n'attendais pas grand-chose et je n'en attends pas plus non plus à l'avenir.
C'est vrai qu'il a mis vachement de temps à la sortir du chapeau, alors que c'était le premier nom qui circulait depuis le début. C'était aussi un moyen d'occuper la scène médiatique, hein, l'espace médiatique, parce que je pense que à son goût, Nupes était un peu trop visible. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Maïalène, de cette nomination d'Elisabeth Borne?
C'est vrai que la symbolique, elle est assez forte quand même, qu'on ait une femme qui soit à la tête du gouvernement, je trouve, au niveau de l'image que ça renvoie pour les jeunes filles qui voudraient s'engager en politique, ou même d'avoir une femme qui a la tête d'une grande entreprise, on a besoin d'avoir ces représentations un peu plus féminines. Après, on se rend compte qu'elle a été nommée aussi au gouvernement parce que Macron voulait garder l'hégémonie politique de son quinquennat et voulait avoir quelqu'un qui gérait la technicité du gouvernement, mais c'était lui qui allait tout gérer, tout contrôler en fait. Elisabeth Borne va être un peu aussi aux manettes de ce que Macron voudra bien lui laisser, en fait. Donc, ça montre qu'on a mis une femme au gouvernement, mais elle n'aura pas l'autonomie qu'un homme aurait pu avoir. Et peut-être que c'est pour ça qu'elle a mis autant de temps à la nommer, c'est parce que les femmes voulaient, en fait, contrôler le gouvernement et qu'elles ont rendu compte que non, Macron ne leur laisserait pas la place d'avoir le pouvoir et d'avoir les capacités de le faire. Donc, à chaque fois, refusé, se sont rendu compte que... On les nommait parce qu'elles étaient femmes, mais pas pour leurs compétences. Et donc, c'est encore montré que symboliquement, on nomme une femme, mais pour ne pas lui laisser la place de mettre en place des mesures sociales, des réformes, en fait, de manière générale, peu importe ses convictions. Il y en a un gros bilan qui est contre la vie sociale et l'environnement, mais elle aurait très bien pu être plus dynamique. Et là, elle a juste à la tête de manière symbolique en étant le plaidoyer féministe de Macron, mais elle n'aura pas du tout d'autonomie par la suite.
Ouais, c'est vrai, il y en a même certains qui ont dit que c'était un genre de super directrice de cabinet. Effectivement, bon, on a vu, hein, d'après moi, elle n'a pas forcément envie de jouer un rôle politique clé dans ce pays. Être ministre, première ministre, c'est déjà vraiment bien. Il y a aussi la question de son côté un peu technocratique qui est souvent mis en avant et le fait qu'elle n'ait pas vraiment de poids politique particulier. Louise, tu partages cette opinion, toi? Tu partages ce constat?
Oui, on verra ce que ça va donner. Là, j'ai vu qu'elle était candidate pour les législatives. Elle n'a jamais, en fait, été candidate. On verra comment ça va se passer pour elle. Je pense qu'elle va être mise en difficulté quand même
Du coup, moi, si je peux rebondir, Léa, en attendant, tu disais que voilà, elle avait plus le profil, plutôt le profil de directrice de cabinet, mais en réalité, c'est vraiment là qu'elle a commencé aussi son, enfin, la politique. Et elle vient vraiment de ce côté de cabinet où, effectivement, à l'époque, elle a aussi beaucoup travaillé avec Ségolène Royal, Jospin. Donc, je pense que Macron, quand il dit qu'elle est de gauche, il s'appuie beaucoup sur cette expérience-là. Mais c'est vrai que le fait qu'elle puisse se présenter là aux législatives, ça va aussi permettre, ça va lui permettre aussi de se confronter à la réalité aussi d'un mandat et d'une élection. Donc, je pense que ça va être aussi intéressant de voir comment elle s'en sort finalement et quel est le retour qu'elle a vis-à-vis de la population et des personnes qu'elle est censée représenter sur sa circonscription. Parce que c'est vrai que là, on en parlera peut-être après, mais dans les ministres, il y en a quelques-uns qui sont aussi candidats. Et donc, il y a aussi un enjeu pour eux de montrer à Macron qu'ils sont suffisamment, comment dire, soutenus localement pour être à la hauteur du poste de ministre qu'il leur a confié. Donc ça, ça va être aussi intéressant et je pense que c'est aussi un enjeu pour beaucoup. Et moi, je suis sur la circonscription de Guérini, voilà, de faire en sorte qu'ils soient tous en difficulté. Ça, je pense que c'est important aussi.
Oui, c'est sûr. Après, ce qu'on peut aussi remarquer, et ça, c'est un concept qui est de plus en plus mis en avant, notamment quand il s'agit de parler de femmes en politique, c'est le concept de la falaise de verre. Le fait qu'on appelle les femmes lorsque c'est la merde, en quelque sorte. Est-ce que, Yalène, tu as l'impression que c'est ce qui s'est passé? Genre là, elle débarque dans une situation qui est un peu catastrophique, tant au niveau politique de la politique nationale, mais aussi au niveau du parti d'Emmanuel Macron. Enfin, on n'est pas non plus sur un parti excessivement uni. Et pour preuve, il y a plusieurs sensibilités, d'ailleurs, qui se sont réunis au sein de ce qu'on appelle l'ensemble ensemble, une espèce de coalition, notamment avec le parti qui a été créé par Édouard Philippe, Horizon, où il arrivait quand même à négocier 58 investitures, ce qui n'est pas négligeable. Est-ce que cette mission qui est confiée à Elisabeth Borne, parce que c'est ni plus ni moins que la seule mission qu'on lui a confiée à ce stade, c'est de gagner les élections, de remporter les élections. Là, en un mois, le gouvernement actuel ne peut rien faire. Elle, en tant que chef de gouvernement, ne pourra rien faire d'autre. Donc, l'objectif, c'est vraiment de mettre le paquet pour remporter cette élection. Est-ce que tu penses que elle fait face, enfin, est-ce qu'on peut convoquer cette notion de falaise de verre dans ce cas-là?
Ben, c'est clair qu'elle arrive dans un contexte national et même international hyper complexe. On l'a bien vu pendant les élections, on n'a pas eu de débat de fond, on n'a pas eu le temps de parler des propositions d'Emmanuel Macron, juste quelques mesures symboliques sur le chômage, retraite, et qu'elle va devoir incarner ça alors qu'elle n'y a peut-être pas eu forcément une voix, en fait. Et donc, on lui demande aussi de mettre en place ces réformes qui sont très clivantes dans la société et de faire campagne sur ces réformes-là, alors qu'on sait que ça divise énormément la population et que ça va être hyper compliqué aussi de les mettre en place avec tous les acteurs sociaux et syndicats. Et donc, c'est elle qui aura cette charge-là, en fait, de faire le plus dur au début du quinquennat. Et après, un autre Premier ministre sera nommé après ça, dans 2-3 ans, pour prendre le lead de Macron après, qui va avoir un rôle beaucoup plus politique et mettre en avant sa personnalité pour prendre le lead du parti Renaissance, ou je ne sais pas comment il pourra s'appeler dans 3 ans. Mais du coup, c'est elle qui va avoir la charge techno, en fait. On l'a prise vraiment pour son expertise et pour lui dire, bah, en fait, tu fais les réformes, tu fais ce pourquoi j'ai été élue, tu fais le plus gros du travail. Et après, la politique, dans 2-3 ans, on verra comment ça se passe. Ce sera la charge de quelqu'un d'autre qui en bavera peut-être un peu moins.
Ouais, je suis assez d'accord. Effectivement, il l'a vraiment appelé pour faire le sale taf. Après, elle l'accepte. Donc, voilà. Il y avait quand même des bruits de couloir qui ont dit qu'il y avait pas mal de monde qui avait refusé. C'est ouf quand même. Enfin, après, c'est difficile de savoir précisément, mais il y avait eu Valérie Rabault, a priori, qui avait refusé. Je crois que Marisol Touraine aussi a refusé. Enfin, en tout cas, des femmes de gauche, vraisemblablement, enfin, étiquetées comme telles, en tout cas. C'est vraiment le sentiment que ça donne. Du coup, Elisabeth Borne, est-ce qu'on l'appelle pour faire le sale taf? Mais on va en parler d'ailleurs, parce que le sale taf, il commence à arriver, notamment avec le fait que il y ait au sein du gouvernement un nouveau ministre accusé de viol et d'agression sexuelle. Hein, comme quoi, ça devient presque un critère de recrutement à croire. Non, je pousse un peu, je grossis le trait. Mais Damien Abad, parlons-en. Damien Abad, quand même, poids lourd des Républicains. Rappelons-le, Damien Abad a remplacé Christian Jacob à la tête du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Il y a eu plusieurs bruits de couloir qui laissaient entendre qu'il voulait peut-être quitter Les Républicains, mais rien n'était trop sûr. Et finalement, jeudi soir, papapam, il quitte le parti, il quitte le groupe WhatsApp du parti. Apparemment, ça, il paraît que c'est un truc très, 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 très important, qui laisse entendre que, bah, il serait potentiellement nommé ministre. Et effectivement, fin du suspense dès le lendemain, Monsieur Abad, Damien Abad, rejoint le gouvernement en tant que ministre des Solidarités, entre autres. Et là, bam, dans la foulée, les accusations de viol et d'agression sexuelle ressortent. Et on voit, bien sûr, qui est la première à se taper le sale boulot. Eh bien, c'est Elisabeth Borne, c'est parti. Donc, ben, ça aussi, là, il y a un petit problème quand même. On peut en parler. On lui donne combien d'heures pour rester au gouvernement? Parce que je rappelle qu'ils ont mis du temps avant que Jérôme Perra, qui a été condamné pour violence conjugale à l'égard de son ex-épouse, soit écarté et désinvesti, enfin retire sa candidature. Il a fallu qu'on ait Stanislas Guérini qui vienne raconter tout et n'importe quoi sur France Info pour que enfin Jérôme Perra décide de retirer sa candidature. Là, combien de temps on va se taper Damien Abad, d'après vous? Est-ce qu'ils vont essayer d'étouffer l'histoire comme ils l'ont fait avec Darmanin? Ayodele, t'en penses quoi?
Bah, j'en pense que tu parlais de falaise de verre, et ben pour justement porter tout ça, il met Elisabeth Borne en tant que première ministre. Donc je pense que c'est aussi pour un peu camoufler toutes les affaires en cours. Moi, j'ai vu, comme tout le monde, que Darmanin était encore présent. Guérini, qui a fait une sortie catastrophique sur le fait que bah, Jérôme Perra était un honnête homme, parce qu'on peut être encore un honnête homme et frapper sa femme, en fait, tout simplement. J'ai vraiment l'impression que ça ne va pas bouger, en fait. C'est presque... On a des affaires qui sortent au fur et à mesure, donc on peut se demander qui va être la prochaine personne. En tout cas, on voit bien que la grande cause du quinquennat passé est toujours pas une grande cause et qu'au contraire, en fait, ces affaires-là ne sont pas suffisamment importantes aux yeux du président pour sanctionner. Et que mettre une femme en tant que première ministre, ce n'est pas suffisant pour dire que c'est une cause importante sur laquelle on va mettre de l'argent pour accompagner et lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Pas du tout, au contraire, en fait. C'est pas parce qu'Elisabeth Borne est là que ça justifie ou que ça suffit finalement à passer tout sous le tapis. Et je pense que ça fait aussi partie des enjeux de ces législatives, de dire qu'on ne veut plus de ces personnes, que ce soit des ministres ou des députés, qui ont des affaires comme ça, de violence contre leurs femmes. Et je pense qu'il faut, il faut dénoncer. Et je n'attends pas, en tout cas, de ce gouvernement de lutter et de faire en sorte que Abad soit écarté. Darmanin est encore là. Et pourtant, ça fait 5 ans que tout le monde hurle en disant qu'il n'a rien à faire là. Donc je pense que ça va être mis sous le tapis et que Elisabeth Borne, on l'a mise aussi pour justifier que quelque part il y a une volonté de faire quelque chose sur ce sujet parce que c'est une femme. Donc c'est un peu la caution femme, mais qui ne se passera pas grand chose.
Ouais, c'est clair que c'est un peu c'est un peu inquiétant, en fait. Effectivement, comme tu le soulignes à très juste titre, ça reste à nouveau la grande cause du quinquennat. Et puis même, parlons du coup du gouvernement. Enfin, on a donc une ministre déléguée aux droits des femmes. Une ministre déléguée, c'est même pas un ministère de plein exercice. Alors, pour le coup, c'est une super... C'est une femme qui est très investie sur la question notamment de la lutte contre les violences, qui est haut fonctionnaire au ministère de la Justice, référente sur les questions de violence, qui a été en charge de plusieurs rapports, missions, qui est magistrate. Et on va quand même donner son nom, Isabelle Rome. C'est une bonne nouvelle pour beaucoup d'associations féministes parce qu'elle est très investie. Ce qui est inquiétant, c'est de voir aussi dans l'ordre protocolaire. Lorsque Alexis Kohler a annoncé la composition du gouvernement, elle est clairement parmi les dernières. Donc, c'est, moi, ça m'inquiète quand on dit grande cause, mais en fait, petit ministère hein, et plus petit budget de l'État, il faut le rappeler. Donc, est-ce que ça, ça va continuer ? Là, pareil. Enfin, est-ce que c'est encore de la communication ? Est-ce que c'est encore du window dressing, comme on dit ? Enfin, ça reste... on peut encore se poser la question, Mayalène, t'en penses quoi ?
Bah oui, comme tu le disais, pour le ministère de l'égalité, enfin... on se rend compte qu'il n'y a qu'une seule femme qui ministre dans un ministère régalien, c'est la Catherine Colonna, et les autres femmes sont à des petits ministères ou à des secrétariats d'État, donc on ne leur donne pas aussi la capacité de peser dans le gouvernement. Et puis, on a beau avoir un gouvernement paritaire, on a un gouvernement composé par beaucoup de personnes qui ont été accusées ou sont accusées de viol ou d'agression sexuelle, et ça, on pense que c'est OK, mais non, en fait, c'est hyper grave, c'est vraiment des accusations hyper graves, et moi, je pense à ces femmes qui voient leurs violeurs ou leurs agresseurs qui sont à la tête de l'État au niveau de la symbolique, c'est ça, hyper violent. Darmanin, il était là pendant 5 ans et on le renouvelle encore une fois, alors qu'on aurait très bien vu c'est dire que c'est une renaissance et que du coup on change, mais non, on le garde, donc ça, c'est la symbolique de se dire, bah non, on le valide dans le gouvernement et on en nomme d'autres qui sont aussi pires que lui. Il y a aussi Christophe Béchu qui s'opposait au mariage pour tous et qui pense que les affiches avec des couples homosexuels sont une offense pour les enfants. Il y a beaucoup de ces symboliques-là qui montrent qu'on banalise totalement la violence envers les femmes, la violence envers les personnes homosexuelles, envers toutes les minorités, en fait. Et donc, ça montre qu'il n'y a aucune connaissance et aucune empathie envers tous les mouvements sociaux, féministes et humanistes qui se débattent depuis des années contre le mouvement MeToo, le mouvement MeToo politique, qui est hyper important aussi. Ça montre qu'en fait... c'est vraiment de l'affichage. On a mis une première ministre à la tête du gouvernement, mais le reste du gouvernement n'a rien de féministe et n'a rien de progressiste. Et surtout, c'est un gouvernement qui ressemble beaucoup au précédent. Je crois qu'il y a 14 ministres qui sont renouvelés. Ça montre qu'il n'y a vraiment pas de renaissance. En fait, le parti s'appelle Renaissance, mais il n'y a rien de nouveau. C'est un remaniement qui n'en est pas un. Et on revient avec les anciennes têtes. Je ne sais pas, c'est parce qu'ils ne trouvaient personne pour prendre leur place ou si c'est parce que... ils considèrent qu'ils font très bien leur travail et qu'il faut les légitimer et leur permettre de rester. Mais je trouve ça assez violent et assez anxiogène pour les 5 prochaines années.
Ouais, non, c'est pas faux. Je fais une petite parenthèse pour préciser qu'on a perdu Louise, techniquement perdu Louise, c'est-à-dire qu'on était en train d'enregistrer ce podcast en direct sur Internet. Et malheureusement, on l'a perdue, donc on n'est pas en train de la censurer, c'est juste qu'elle a, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle doit avoir un problème de connexion, donc voilà, je précise qu'à tout moment, elle peut nous rejoindre, et j'espère que ce sera le cas, mais bon, continuons notre discussion entre nous. Il y a quand même quelques nouvelles personnes, nouvelles têtes au gouvernement, donc je suis quand même d'accord avec toi, Mayalène, sur le fait que ça ressemble plus à un remaniement qu'à un vrai nouveau gouvernement. En plus, il y a certaines personnes qui restent certaines personnes problématiques qui restent au même endroit, Dupond-Moretti à la justice, Gérald Darmanin à l'intérieur, j'en passe des meilleurs. Mais il y a quand même quelques figures nouvelles. Alors, il y a à la fois des figures totalement nouvelles, c'est-à-dire des figures qui n'étaient même pas députées ou politiques rattachées au gouvernement ou élues, et des figures quand même... politique qui, par exemple, je pense à Yael Braun-Pivet, qui est présidente de la commission des lois, qui est nommée ministre aussi, et bien sûr, Pap Ndiaye, le ministre, nouveau ministre de l'Éducation, qui s'est déjà pris définir ce qui vit là actuellement. C'est une déferlante, un torrent de haine raciste, oui, c'est ça, hein, qu'il est en train de se prendre de la part de personnes qui ne sont pas d'accord avec le fait qu'il soit à l'éducation. Enfin bon, bref, Louise est revenue, youpi! Oui, Louise, vas-y, reviens, trop cool. Du coup, on va te donner la parole. Tu as entendu un peu ce qu'on se disait là sur le nouveau gouvernement, le fait qu'il n'est pas tout à fait nouveau, mais qu'il y a quand même des personnalités un peu nouvelles, comme notre nouveau ministre de l'Éducation. Qu'en penses-tu, toi?
Oui, c'est le seul changement. Pour moi, c'est l'homme.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found.
LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Qui s'était insurgé contre les violences policières et leur déni, c'est aussi l'homme qui s'était insurgé contre les contrôles aux faciès et le racisme structurel. Donc ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je me demande un peu ce qu'il est venu faire dans ce gouvernement-là. Peut-être qu'il pense qu'il va pouvoir changer les choses de l'intérieur. Je ne suis pas sûre qu'il y arrivera. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que cette nomination, elle est aussi là pour nous faire croire que Macron, il serait un peu de gauche, un peu anti-raciste. Et finalement, c'est sans doute en fait un peu une victoire. Je me dis qu'on a du poids, que les militants anti-racistes et les militants de gauche ont du poids si Macron a ce besoin-là de faire croire qu'il est un peu de gauche, un peu anti-raciste. Donc c'est une bonne nouvelle. Et puis, c'est une bonne nouvelle aussi de voir Blanquer partir, celui qui a eu de cesse d'alimenter les polémiques d'extrême droite. Donc ouais, c'est le seul changement positif pour moi dans ce gouvernement. Et comme tu l'as dit, ouais, c'est un déferlement d'attaques racistes qui subit. Et ça me fait penser un peu à ce qu'avait subi Najat Vallaud-Belkacem et à Taubira quand elles étaient au pouvoir. Et c'est une fois de plus insupportable.
Ouais, c'est insupportable. Puis ça en dit long aussi sur l'état d'esprit de notre pays. C'est quand même très inquiétant, même au-delà du fait d'être particulièrement insupportable, effectivement. Est-ce que tu penses que lui aussi, il est un peu face à une espèce de falaise de verre, enfin, la situation avec le corps enseignant, avec les fonctionnaires de l'éducation nationale, Blanquer, il laisse une situation catastrophique. Lui, il ne va pas se retrouver genre, super en difficulté, non pas par sa faute, mais par la situation qui a été laissée par son prédécesseur?
Ouais, bah, je ne sais pas. En fait, je pense que la nouvelle a été plutôt bien accueillie par les organisations syndicales des profs, du SNES notamment. Je pense que déjà, ils sont super contents de voir Blanquer partir. Donc, je pense que c'était aussi une nomination pour rassurer les profs en vue des législatives. Enfin, c'est un calcul politique, bien sûr. C'est sûr que je ne sais pas comment il va faire pour mener les réformes qu'il souhaite dans ce gouvernement-là. C'est pour ça que je disais, est-ce qu'il pense vraiment qu'il va pouvoir changer les choses de l'intérieur tout seul face à ce gouvernement, avec ce gouvernement-là? Je ne sais pas, mais oui, c'est sûr que ça va être difficile pour lui. Ça va être difficile pour lui, comme ça a pu être difficile pour d'autres qui en sont venus avec plein d'espoir dans ce type de gouvernement-là. Je pense à Hulot, même si Hulot, voilà, on n'a pas trop envie de parler de lui, mais ouais, je pense que ça va être compliqué.
C'est clair, merci Louise. Et puis, à part les nouveaux dans ce gouvernement, il y a aussi ceux qui partent. Et on l'a dit, déjà, on se débarrasse de Blanquer, ce qui est quand même pas rien. On se débarrasse de Marlène Schiappa aussi. Ça, c'est fou, ça. Moi, j'étais un peu surprise de voir qu'elle quittait le gouvernement. C'est quand même très, très proche du président de la République. Est-ce que vous pensez qu'il essaie de lui réserver quelque chose, genre le perchoir ou que sais-je? Mayalène, t'en penses quoi?
C'est sûr qu'il y aura d'autres changements après les législatives. Est-ce que, selon les scores que chaque député ou candidat va faire dans sa circonscription, il y aura des remaniements, il y aura des adaptations, des postes qui vont être créés? Vous savez qu'il y a la présidence de l'Assemblée qui est encore vacante. Il y a des postes importants au sein du parti qui vont être attribués aussi. Et donc, ça va dépendre de l'image que renvoie chaque personne et de la place qu'il arrive à se faire. Je pense qu'on a tous, et enfin surtout toutes, pas très envie d'en revoir certains et de dire qu'ils ont fait 5 ans et que ça suffit. Il faut un peu renouveler aussi les têtes et les pratiques et que ceux qui viennent d'arriver puissent aussi prendre leur place et mettre en avant d'autres mesures, d'autres façons de faire de la politique. On parlait du ministre de l'Éducation nationale. Est-ce qu'il va arriver à prendre sa place alors qu'il ne vient pas de ce milieu administratif, technocrate? Est-ce qu'il va arriver à trouver... mettre en avant ses pratiques à lui du milieu universitaire, à le mettre dans l'administration et dans le milieu politique, ça sera le futur qui nous dira. Mais en tout cas, je souhaite bonne chance.
C'est clair. Bien, écoutez, merci beaucoup à toutes les trois pour vos analyses sur ce nouveau gouvernement et sa nouvelle chef, Elisabeth Borne. On rappelle qu'il y a les élections législatives qui sont à venir, qu'on n'est pas non plus à l'abri d'une surprise et que peut-être que la gauche qui a décidé de s'unir et qui a fait une des propositions communes, 650 propositions communes, c'est quand même remarquable, va peut-être renverser la vapeur et puis poussé Emmanuel Macron à finalement changer de gouvernement et de premier ou première ministre. Est-ce que vous y croyez? Bon, Louise, c'est sûr que tu y crois, toi, non?
Ah bah oui, j'y crois. oui, je pense que nous, en fait, on fait beaucoup de porte-à-porte et on voit que cette union, elle suscite un vrai espoir. J'ai rarement vu, c'est pas la première fois que je fais une campagne législative, c'est la première fois que je suis candidate, mais c'est pas la première fois que je fais une campagne législative, et ça suscite un vrai intérêt. Je pense que c'est aussi l'utilisation de Mélenchon comme figure de Premier ministre qui permet de médiatiser ça. Et donc, je pense que bon, ça va être difficile d'avoir 289 députés de la NUPES et avoir cette nouvelle majorité et avoir Mélenchon comme Premier ministre à la place d'Elisabeth Borne. Mais ce n'est pas impossible, j'espère. On verra.
Ouais, à suivre, effectivement. Les sondages sont relativement favorables, mais à prendre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de pincettes. Déjà que les sondages pour les élections présidentielles sont à prendre avec des pincettes, mais c'est encore pire pour les législatives. Toi, Yodele, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que la gauche a une chance?
Alors, moi, j'en pense que nous, en tout cas, dans certains quartiers, on n'a pas cet engouement parce que c'est une union qui s'est faite autour des partis, de quatre gros partis, et que dans certaines circonscriptions, je ne parle pas pour toutes, des citoyens qui étaient engagés, ancrés localement, ont été mis de côté, écartés, pas du tout sur la table des discussions. Donc, il y a aussi une déception. Qui remonte aussi de ces quartiers qui ont aussi voulu croire à cette union et qui on a l'impression que du coup on fait pour nous à notre place encore une fois. Donc je pense qu'il y a quand même un sujet de fond à avoir sur les législatives et sur comment est-ce que les circonscriptions ont été réparties. Je pense à des cas très concrets comme Mariam Cissé à Clichy-sous-Bois qui se retrouve avec un candidat NUP qui vient je crois de Poitiers si je ne me trompe pas. Je pense à moi qui suis dans un quartier depuis 25 ans et on n'a jamais été reçu. Donc je pense qu'il y a quand même un sujet aussi de l'électorat et de l'abstention qu'on a aujourd'hui par rapport aux législatives, où les gens se sentent très peu concernés et que pour avoir cette majorité de gauche, il faut que tout le monde aille voter. Et malheureusement, moi, je sens cet engouement NUP chez des personnes qui sont très politisées, des militants aussi de gauche. Je sens beaucoup moins chez des gens qui sont vraiment en très grande difficulté, qui ne se retrouvent pas dans cette représentativité, ou en tout cas dans ces députés, ces candidats que l'on propose malheureusement. Donc nous, même moi étant candidate citoyenne, on souhaite une majorité de gauche. Maintenant, on souhaitait aussi une majorité de gauche, une union de la gauche plurielle, plus large, et pas qu'autour de quatre partis où d'année en année, ça fait un peu 30 ans que ça fait pas mal d'années qu'on est un peu déçus de voir que finalement rien n'est fait pour accompagner les gens des quartiers, de milieux plus pauvres, à justement s'investir plus en politique. Donc voilà mon petit retour.
Je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, j'avais reçu pas plus tard qu'il y a deux semaines des candidates aussi qui avaient été écartées au profit d'autres candidats, des candidats qui avaient été investis par leur parti aussi. Donc, pas forcément que des candidatures citoyennes comme la tienne, mais aussi des candidatures de LV, des candidatures LFI, et qu'on a vraiment écartées ou envoyées ailleurs au profit de poids lourds qui sont là depuis un bail. Par exemple, une jeune candidate LV qui se retrouve désinvestie au profit d'un vieux PS. Bon, j'avoue qu'il y a quand même des choses qui n'ont pas été super bien arbitrées de partout. Mais bon, ça, c'est vrai que, hormis ça, même si pour moi aussi, c'est quand même un point très important, est-ce que tu penses, Mayalène, qu'il y a une chance pour que la gauche remporte ces élections?
Ça serait super que pendant 5 ans, on ait la justice sociale, l'environnement au cœur de l'actualité et des politiques publiques. C'est nécessaire, c'est urgent. On voit pour le climat, c'est hyper important qu'on puisse agir maintenant, dès aujourd'hui, et qu'un gouvernement Borne ou Macron ne fera pas. Après, même si les sondages montrent que c'est pour l'instant favorable, le jeu du fait majoritaire fait que c'est compliqué. On va aller, enfin, espagnols votent surtout pour avoir que le président ait une majorité. Donc, pour l'instant, moi, j'y crois pas beaucoup à la cohabitation. Je pense qu'on aura une très forte opposition à gauche. Et ça, c'est super important aussi que dans les débats au Parlement, on puisse peser pour faire évoluer les projets de loi, amender et impulser, et puis contraindre le gouvernement aussi dans son action. Et puis, comme disait Ayodele, c'est hyper important aussi qu'on ait un renouvellement beaucoup plus civique, avec des engagements sur le terrain, des engagements beaucoup plus féministes, beaucoup plus divers pour nous représenter, et qu'on n'ait pas les mêmes personnes à la tête du pays ou à la députation comme tout le temps. Et ce qui se passe actuellement avec Coupé, c'est un petit peu ça qui se reproduit. Mais en tout cas, il faut que la justice sociale gagne, il faut que l'environnement gagne. Et c'est pour ça qu'on fait campagne toutes les trois pour les législatives.
C'est génial. Merci beaucoup à toutes les trois pour votre engagement politique aussi. Bon courage pour cette campagne. On va passer aux petites infos, actus, coup de cœur, coup de gueule, peu importe ce que vous souhaitiez partager avec nous. On va commencer avec toi, Louise. De quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît ?
Alors moi, je voulais vous parler d'un truc pas très léger, c'est l'état des prisons en France. En fait, c'est un sujet dont on n'a pas du tout parlé pendant la campagne présidentielle et pendant les législatives. À droite, c'est carrément un non-sujet. La droite se focalise sur le durcissement des peines. Et à gauche, on est un peu timide, on ne sait pas trop comment aborder ce sujet, on sait que c'est un peu impopulaire, donc on n'en parle pas trop. Pourtant, je crois que c'est Camus qui disait qu'une société se juge à l'état de ses prisons, et si c'est le cas, bah, la France a du souci à se faire, parce que la France elle a été condamnée en 2020 par la Cour européenne des droits de l'homme en raison des conditions inhumaines et dégradantes de ses établissements pénitentiaires. Aujourd'hui, il y a 1600 personnes détenues qui dorment à même le sol. Les prisons sont occupées avec un taux allant parfois jusqu'à 180% de leur capacité, et cette surpopulation carcérale, bah, elle a des conséquences terribles sur l'accès aux soins des personnes détenues, sur l'accès au travail des personnes détenues, sur l'accès à la formation. Et ça, ça a des conséquences indéniables sur la réinsertion de ces personnes et sur le comportement de ces personnes en sortie de prison. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une tribune dans Mediapart, il n'y a pas longtemps, de la contrôleure générale des lieux de privation des libertés, qui a comparé les conditions des détenus à des châtiments corporels. Et je trouve que quand on est de gauche, on ne peut pas considérer que ça, c'est un non-sujet. Et il faut, nous, porter haut et fort la revendication du développement des peines alternatives à la prison, qui est la seule solution aujourd'hui pour mettre fin à ces conditions inhumaines et dégradantes. Donc voilà, je voulais profiter de ce petit moment, de ces deux minutes que tu nous accordes pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, pour parler de ça et pour essayer de faire en sorte qu'on se saisisse de ce sujet à gauche.
Voilà. Il y a des propositions dans ce sens, dans le programme commun, des 650 propositions, ouais.
Ouais, justement, c'est le développement des peines alternatives à la prison, mais même, je trouve que même si il est dans le programme de la NUPES, on en parle trop peu, quoi. Même les militants à gauche, parfois, ils ne sont pas tous très au fait de ces questions, et je trouve ça dommage parce que c'est terrible, et les personnes détenues, il y en a énormément, il y en a forcément dans notre entourage, dans la vie de tous les jours, et on ne peut pas ne pas se saisir de cette question, quoi.
On est bien d'accord. Merci beaucoup, Louise, effectivement, d'alerter sur cette question qui passe souvent à la trappe et qui est un peu sous les radars. Merci. Ayodele, toi, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît ?
Alors moi, je voulais vous parler un peu de sport, une athlète olympique. Je voulais parler d'un amendement qu'on a réussi à faire voter dans le projet de loi démocratiser le sport en France, qui impose en fait la création de commissions des athlètes dans les fédérations sportives délégataires, donc les fédérations qui sont en capacité d'organiser des compétitions internationales et nationales. Et pourquoi est-ce que je voulais vous en parler ? C'était pour vous expliquer que cet amendement qu'on a porté au nom de la commission des athlètes du comité olympique, on a mis 2 ans pour justement faire en sorte que ça puisse être adopté par les fédérations et puis adopté dans la loi. Et je voulais en profiter pour que les sportifs et les non-sportifs aussi qui suivent puissent aussi connaître un peu plus la situation des sportifs de haut niveau dans ce pays, parce que c'est vrai que quand on parle de sportifs de haut niveau, on a tendance à parler des footballeurs ou des athlètes qui gagnent très très bien leur vie. Il faut quand même savoir que beaucoup d'athlètes qui vont aux Jeux Olympiques sont au RSA. Donc il y a vraiment un niveau de précarité qui est très très fort, et que l'enjeu de ces commissions d'athlètes, c'est à la fois d'avoir une représentativité, mais aussi de parler de sujets qui nous touchent. Et un peu comme ce que disait Mayalène, hein, c'est aussi faire en sorte d'accompagner les futurs dirigeants demain dans les instances. Et donc ça, c'est vraiment une démarche qu'on a portée, et que j'aimerais aussi porter à travers ma candidature aux législatives, qu'on puisse aussi accompagner ceux qui veulent s'investir, ceux qui veulent du coup s'investir politiquement ou même en entreprise, parce que ce plafond de verre, on l'a très très vite et très très tôt en fonction du milieu social dans lequel on est. Et je pense que vous avez parlé de Pape Ndiaye, il est parti effectivement dans le gouvernement Macron, et on sait très bien qu'il va difficilement pouvoir porter ses idées. Par contre, je trouve que c'est curieux aujourd'hui que ce soit Macron, hein, qui fasse cet effort-là, et qu'on ne le voit pas tant à gauche. Et donc, il y a vraiment un questionnement profond sur pourquoi est-ce que à gauche, c'est autant et c'est toujours aussi dur finalement de faire monter les gens qui viennent d'un milieu plus défavorisé, d'un milieu social différent. Et pourquoi est-ce qu'en fait, on retrouve un peu des gens qui viennent de la même catégorie. Et donc, c'est un peu ce qu'on a porté dans le sport. Je pense qu'on peut le porter aussi dans la politique, voilà, à travers ce type d'initiative, et je voulais en parler.
Eh bien, merci beaucoup. C'est aussi un sujet très important. Merci. Mayalène, enfin, de quoi voulais-tu nous parler, toi, s'il te plaît ?
Moi, ça va être comme vous, un sujet pas très fun, mais tout aussi important. Je vais vous parler de la santé mentale des jeunes, qui est un sujet pas trop abordé par les politiques. Et on s'est rendu compte que c'était un sujet essentiel, surtout après la crise sanitaire et tout ce qu'on a vécu chacun et chacune. Et que les jeunes subissent beaucoup de stress, de pression dans leurs études, après leurs études et lors de leur premier job. On voit qu'il y a une situation d'épuisement mental de beaucoup d'entre nous, qu'on arrive épuisé à la fin de nos études et on doit directement trouver un travail, trouver des logements, que c'est hallucinant parce qu'on est les seuls citoyens à ne pas avoir un salaire minimal, le RSA. Dès qu'on a moins de 25 ans, on nous dénie le droit d'avoir un salaire pour vivre dignement. Et donc, tous ces critères font qu'on vit dans un système de stress et on doit totalement prouver nos compétences pour notre premier job, qui sont souvent des CDD qui se renouvellent ou pas, ou alors des stages qui vont être renouvelés ou pas. On a beaucoup de difficultés financières pour avoir un loyer, surtout qu'on habite dans des grandes villes. Et donc, on vit dans des petits espaces assez clos. Quand on fait du télétravail, ça accentue tous ces stress, ces anxiétés sociales. Il y a aussi un phénomène qui se développe beaucoup actuellement, et il y a un nom qui a été mis sur ce phénomène, c'est l'éco-anxiété. Donc, tout ce stress de... On vit dans une société où le réchauffement climatique s'aggrave de jour en jour, les gouvernements et les grandes entreprises n'agissent pas, et on se rend compte, nous, les jeunes, qui sommes les plus éveillés à ce qui se passe actuellement dans la planète, on se rend compte que notre planète est très malade et qu'il y a besoin d'agir maintenant. Et donc, ça nous met aussi ça augmente l'anxiété globale dans laquelle on vit. Et donc, il y a besoin de démocratiser bien plus que c'est que la santé mentale, qui est part prenante de la santé physique, et de se dire que d'aller voir un psychologue, c'est totalement OK, d'éduquer aussi chacun et chacune à détecter des signes de mal-être, de besoin d'aide, et de savoir vers qui se tourner, de savoir comment réagir quand on sent plus mal, pour en fait qu'on puisse tous vivre et s'épanouir dans un monde où on sera beaucoup plus, qui sera beaucoup plus sain. Et donc voilà, c'est un sujet qui est hyper important, dont on parle pas beaucoup. Il y a un article du Monde qui est sorti il y a quelques jours sur le burn-out des lycéens, et on se rend compte que de plus en plus de jeunes font des burn-out. Il faut pas avoir 50 ans, un costume et travailler dans une banque pour faire un burn-out, ça concerne tous et tout le monde. Donc voilà, il faut qu'on agisse et qu'on prenne un peu soin de notre santé.
Merci beaucoup, Mayalène, pour ce sujet ô combien important aussi. Merci beaucoup à toutes les trois. C'était un véritable plaisir de vous recevoir sur cet épisode de Popol. Je vais désormais passer la parole à Clotilde Lecaus pour sa chronique internationale. Et avant ça, je vous rappelle que vous pouvez encore soutenir Popol pendant quelques jours sur la campagne Ulule pour qu'on puisse vous proposer dès le mois de juin une newsletter bimensuelle sur la politique. Je vous remercie et je vous dis à très vite.
Salut Léa et bonjour tout le monde. Bon oui, donc voilà, on a un gouvernement et à sa tête une femme.
Rend le bas de combat chez nos voisins français. Place à une femme, Elisabeth Borne.
She's only the second woman to hold the post and the first in three decades.
Aufbruch verkörpert Elisabeth Borne nicht.
La elegida para ocupar el cargo es la hasta ahora ministra de Trabajo, la socialista Elisabeth Borne.
Oui, ça fait 30 ans que c'est pas arrivé, et oui, ce n'est que la deuxième fois, donc forcément, ça a suscité des réactions. Une femme première ministre, une expression qui n'a jamais été employée en France, puisqu'Edith Cresson était premier ministre. Le fait que ce soit une femme est un événement ici, ce qu'a bien noté la presse étrangère. Et cette semaine, j'ai donc demandé son avis à celle qui a fait le tour des réactions dans la presse écrite à l'étranger.
Je m'appelle Marie-Ange Costantini et je travaille au service France de Courrier International, qui consiste donc en la lecture de la presse étrangère, donner un aperçu en fait de ce qu'analysent les journalistes étrangers.
Et oui, du New York Times au Guardian, en passant par l'Italie et le Qatar, il se dit cela.
Ils sont tous que c'est une femme, que ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu de femme, et surtout que c'est un événement en France, alors qu'à l'étranger, ça ne le serait pas. Parce que justement, ils sont beaucoup plus habitués à avoir des femmes à ce niveau-là en politique, et qu'en France, ça fait 30 ans que ce n'est pas le cas, donc que c'est un événement. Ça leur paraît un peu fantaisiste. Vous voyez, ça note beaucoup justement que ça devrait être un non-événement. L'économiste dit que ça devrait être banal. Ça l'est partout ailleurs, mais pas en France.
Bon, un peu vieux jeu, la France alors ?
Un peu vieux jeu, mais ils disent justement qu'on est à l'avance sur le niveau des femmes, de l'égalité et de la parité dans les entreprises et dans le secteur du privé, et même au niveau de l'Assemblée, mais qu'au niveau des hauts postes de la fonction publique, il y a une barrière qui ne marche pas. Et c'est l'OTAN qui s'interroge en se demandant mais à quand la femme présidente de la République en fait ? Parce que pour l'instant, Elisabeth Borne n'est que numéro 2.
Que numéro 2, donc. Dans Le Soir, en Belgique, on peut même lire « Et si ce Premier ministre devait soudain absolument être féminin, c'est parce que cela faisait air du temps, parce que cela faisait différent. Vu de la cause féminine, il s'agit presque d'une caricature. À notre époque, désigner une femme à un poste de premier plan pour y être instrumentalisée et donner à la gestion de l'État les apparences d'une plus grande empathie rend un très mauvais service au combat, toujours loin d'être gagné, contre le fameux plafond de verre. » Et c'est pas le seul à écrire ce genre d'argument.
C'est repris dans plusieurs titres, mais alors plutôt conservateurs. Par exemple, Le Spectateur, qu'on a repris dans Courrier, qui dit ben, « Ok, c'est une femme, certes, donc c'est déjà un bon point pour Macron, mais en même temps, pas une femme qui brille par son charisme. » Ils reviennent tous sur le fait que elle ne va pas faire d'ombre à Macron, en fait.
Alors, Elisabeth Borne, un choix par défaut ? En tous les cas, la presse étrangère s'accorde à dire qu'elle coche toutes les cases. Enfin, trois. C'est une femme. Elle est de gauche. Et attention, elle est quand même compétente. On a même des journaux qui lui ont trouvé des surnoms, comme en Pologne, dans le journal Politica.
Politica qui dit que, en plus, elle servira de pare-choc, parce que le Premier ministre, c'est celui qui se prend tout. Et donc, c'est elle qui sera sur le front pour la réforme des retraites. On l'appelle le couteau suisse.
Et puis le temps qui a été pris pour nommer notre couteau suisse, il n'y a pas que nous que ça a questionné et la presse étrangère a plutôt son avis unanime sur la question.
Pour eux, c'est Macron qui se refuse à faire une campagne législative de la même manière qu'il avait reculé la présentation de sa candidature à la présidentielle.
Et enfin, Marie-Ange Constantini tenait à nous signaler un journal qui apportait un point de vue un peu différent sur le choix d'Emmanuel Macron pour le poste.
Le Corriere della Sera, donc un journal italien, c'est pas trop revenu dans la presse étrangère, c'était pas l'aspect le plus souligné. Mais lui dit, ben, elle était là depuis le début auprès de Macron, et donc c'est en fait le choix d'une certaine continuité sur la ligne de Macron, quoi.
Une continuité qui s'avère, car le nouveau gouvernement ne rime pas vraiment avec rupture. Alors un grand merci à Marie-Ange Constantini pour sa contribution et je vous dis à très bientôt. Bonne semaine à toutes et tous.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.